Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous sommes avec l'égyptologue et spécialiste du monde copte, Christian Canuyer. Bonjour Christian.
Bonjour Sébastien.
Alors professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille, président de la Société belge d'études orientales, vous êtes aussi directeur, sinon surtout, de Solidarité Orient, qui est la petite sœur belge de notre œuvre d'Orient. Nous allons évoquer ce matin le culte de la Sainte Famille en Égypte. Christian, vous êtes un habitué de notre émission dominicale où vous venez régulièrement pour nous tenir informés de l'actualité égyptienne, le monde copte, bien entendu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de présent dont nous allons parler ensemble, mais d'histoire ancienne, de traces bibliques, de mystique et de cette exubérance chaleureuse propre au monde copte. Et pour accompagner notre échange, nous allons nous appuyer sur un numéro spécial du Monde de la Bible qui est dédié aux Coptes, histoire des chrétiens d'Égypte, et qui est actuellement en vente en kiosque jusqu'au mois de février prochain. Alors, ma première question sur le culte de la Sainte Famille en Égypte. Quelles sont les traces textuelles dans les évangiles? Sur quoi se base cette tradition égyptienne?
Vous savez que le récit de la fuite en Égypte de la Sainte Famille, essayant d'échapper à la fureur du roi Hérode après la visite des mages, n'est raconté en fait que dans le seul évangile selon Matthieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des exégètes occidentaux qui sont bardés de distance critique mettent un peu en cause l'assise historique de ce récit qui semble être au fond l'histoire de Moïse à l'envers. Hein, Moïse qui quitte l'Égypte avec son peuple vers la Terre Sainte, fuyant la tyrannie d'un roi excessivement autoritaire et cruel, Pharaon. Eh bien, à cela répond la Sainte Famille, fuyant la cruauté barbare d'Hérode, qui massacre les innocents de Bethléem, les enfants de Bethléem. Alors que Pharaon, lui, c'est le contraire, c'est Dieu qui a puni les enfants des Égyptiens. Donc ce récit, au fond, a pour but de faire de Jésus un nouveau Moïse, le fondateur d'une nouvelle alliance. Et c'est la raison pour laquelle la critique historique contemporaine met un peu en doute l'historicité de cette narration. Vous savez l'adage « testis unus, testis nullus », le témoin unique est un témoin nul ou à peu près. Et donc faut-il croire Matthieu ? On en doute. Mais évidemment, pour les Égyptiens, ce récit, et le pape Chenouda III, l'ancien pape, le disait avec force, ce récit n'est pas à mettre en doute, il fait partie de leur mémoire, il fait de l'Égypte une autre terre sainte. Il répond à la prophétie d'Osée, hein, d'Égypte j'ai appelé mon fils, et donc grâce à ce récit, l'Égypte, en quelque sorte, s'est présentée comme une des autres terres foulées, si je peux me permettre l'expression, par les pieds du Verbe incarné. Et ça prend dans la mémoire collective et la piété du peuple chrétien d'Égypte et aussi des musulmans une dimension évidemment tout à fait saillante.
Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Ça, c'est une description qui n'est absolument pas à remettre en cause du point de vue copte.
Du point de vue copte, certainement pas. Et donc, il y a actuellement en Égypte une grosse quarantaine de sites disséminés dans toute la vallée du Nil, depuis le delta jusque dans la région d'Assiout, donc à plus de 300 kilomètres au sud du Caire, toute une série de sites où l'on commémore le passage de la Sainte Famille qui serait restée en Égypte pendant 3 ans et demi environ, 3 ans et 11 mois, ça dépend un peu des traditions. Et l'iconographie, les icônes, la liturgie, le synaxaire, c'est-à-dire la vie des saints qu'on lit très régulièrement à la messe, tout cela rappelle constamment aux Égyptiens la venue venue de la Sainte Famille dans leur pays, qui est d'ailleurs fêtée. Il y a une fête spéciale le 1er juin de chaque année où on commémore l'entrée de la Sainte Famille, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, et la cousine de Marie, qui était en même temps la sage femme Salomé, qui accompagne la famille tout au long de ses pérégrinations dans la vallée du Nil.
Christian Canuet, est-ce que vous avez assisté vous-même à l'une de ces cérémonies lors de l'un de vos séjours en Égypte ?
Oui, bien entendu. Alors, la fête du 1er juin, à vrai dire, pas, mais les sites qui ont été censément visités par la Sainte Famille sont aussi des lieux de pèlerinage. Et de pèlerinage parfois très impressionnants. Je pense par exemple au site le plus méridional, qui est pourtant un site qui a été identifié par la tradition copte assez récemment, le site de Deir Dronka. C'est là que la Sainte Famille aurait pris, apprenant la mort d'Hérode, aurait pris le chemin du retour vers la Terre Sainte. Eh bien, il y a là, chaque année, au mois d'août, un pèlerinage qui draine des dizaines, sinon des centaines de milliers de coptes dans une ambiance de pieuse kermesse.
Alors, vous avez écrit aussi sur la Nubie chrétienne. C'est un sujet qui m'a particulièrement intéressé à un moment donné, donc sur ces chrétientés du Nil, et je crois me souvenir que même au-delà de la Nubie chrétienne, qui correspond au Soudan de nos jours, ce culte de la Sainte Famille est allé jusqu'en Éthiopie.
Alors en Éthiopie, il est extrêmement couru, ce culte, parce que l'une des étapes méridionales de la Sainte Famille, où elle serait restée environ 6 mois, la sainte montagne de Koskam, aujourd'hui le grand couvent du Deir el-Muharrak, où vivent environ 150 moines, un site lui aussi extraordinaire, où on commémore non seulement le fait que la Sainte Famille a vécu dans une petite maison qui est devenue aujourd'hui l'église principale de ce monastère, mais après sa résurrection, Jésus aurait rassemblé en ce site ses apôtres, Marie-Madeleine, la Vierge, pour y célébrer la première messe, ou plus exactement pour faire célébrer la première messe par Saint-Pierre. Et la tradition dit qu'à la fin des temps, la toute dernière messe chrétienne sera également célébrée en ce lieu de la montagne de Koskam. Et dans la tradition éthiopienne, ce lieu est très connu, très vénéré. Il y a même un Koskam de substitution qui a été créé en Éthiopie par le roi Yasu II au XVIIe siècle. Et le Deir el-Muharrak, donc ce monastère égyptien, était voisin d'un monastère peuplé de moines éthiopiens. La tradition a duré jusque dans l'entre-deux-guerres. Il y avait des moines éthiopiens donc qui vivaient là, au Deir el-Muharrak. Et vous savez que jusqu'en 1959, le chef de l'église d'Éthiopie était toujours un égyptien, envoyé par le patriarcat d'Alexandrie. Et généralement, c'était un moine du Deir el-Muharrak. Et donc, en Éthiopie, vous avez quantité d'églises qui sont dédiées au séjour de la Sainte Famille en Égypte, et quantité d'icônes qui se réfèrent à cet événement que nous jugeons un peu mythique, mais qui pour les Égyptiens comme pour les Éthiopiens fait partie de la geste du Verbe incarné.
Ce qui est très important dans ce que vous dites quand on vous écoute, c'est qu'on est au-delà de la vérité historique finalement. Est-ce que c'est important? Parce que là, on est sur une seconde Terre Sainte.
Voilà.
Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce que ça veut dire pour les gens. Quelle est leur imagination par rapport à ça?
Je vous rejoins totalement. Bon, moi, j'ai la fibre historienne. Je suis indécrottablement marqué par le cartésianisme occidental. Et donc, je comprends bien la démarche de ceux qui ont une approche distanciée de ce récit et de cette tradition. Mais en même temps, la façon dont la piété, la spiritualité égyptienne s'en sont emparées a pour but aussi d'étendre le mystère de l'incarnation au-delà de la terre de Palestine, de montrer que d'entrée de jeu, dans sa vie terrestre, Jésus et sa famille, en allant en Égypte, eh bien, ont signifié cette perspective universelle du salut que, au fond, l'événement de la Noël apportait à l'humanité. Et vous savez, ce dialogue, et c'est vrai en Terre Sainte, c'est vrai, prenons aussi le cas de Saint-Jacques de Compostelle, évidemment le lieu est très largement légendaire ou mythique, vu avec le regard des historiens, mais au fond l'authenticité d'un lieu repose moins sur sa réelle assise historique que sur la démarche de foi de tous ceux qui, génération après génération, ont visité ce lieu et l'ont imprégné de leur espérance, de leur intimité avec le mystère du Christ. Et c'est bien ce qu'on trouve en Égypte, même si évidemment il y a des naïvetés évidentes. Prenons la ville de Sakhra dans le delta du Nil, où on vous montre l'empreinte du pied de Jésus qui est marquée dans un rocher retrouvé il y a quelques années d'ailleurs par miracle. Mais ça correspond bien, je dirais, à ce côté foi charbonnière un peu, qui est celle des Égyptiens, la foi de nos grands-mères peut-être.
La question des pèlerinages aussi, la question du déplacement, de ces mouvements de foi, on marche, on se déplace, on est en communauté, donc on suit les traces de la Sainte Famille, quel qu'il soit en fait.
Oui, l'homme chrétien est fondamentalement un pèlerin parce que notre vie a souvent été comparée par la tradition orientale, mais aussi par notre tradition occidentale, notre vie a souvent été comparée à un pèlerinage. Et s'agissant de l'Égypte, ce qui est remarquable aussi, c'est que plusieurs des lieux qui sont les épicentres aujourd'hui de la tradition de la Sainte Famille étaient déjà des lieux de pèlerinage dans l'Égypte pharaonique. Je pense au site de Bubaste, je pense peut-être aussi au site de Matarié, où l'on vénère un arbre qui se serait fendu en deux pour cacher la Sainte Famille échappant aux sbires d'Hérode, et où dans l'Antiquité pharaonique, on vénérait également un arbre mais qui se fendait chaque matin en deux pour laisser émerger le soleil naissant, le soleil de chaque jour. Le Christ est évidemment aussi le soleil invaincu, c'est le soleil du salut, et il y a peut-être une continuité entre cet arbre Ished de l'ancienne Héliopolis d'Égypte et l'arbre de la Matarée que tous nos voyageurs occidentaux du Moyen-Âge en Égypte ont été pieusement visités, jusqu'aux soldats de Bonaparte qui ont été laver leur visage à la source toute proche parce qu'ils souffraient d'ophtalmie après la bataille des pyramides.
Alors c'est une question extraordinaire que vous soulevez, Christian Canuet, c'est celle de la continuité entre l'Égypte antique et le monde copte, qui est donc ce maillon d'une certaine manière qui permet la transmission par la langue et aussi, semble-t-il, par des lieux, par des endroits fréquentés.
Voilà, et il y a quelques années, sur un des sites vénérés par la tradition égyptienne, au mois de mars 1976, on a vu le Nil charrier une Bible imprimée à Beyrouth au début du XXe siècle, une Bible qui flottait sur les eaux du Nil, qui était ouverte à la page du chapitre 19 d'Isaïe, hein, qui dit béni soit mon peuple d'Égypte, le Seigneur viendra sur les nuées en Égypte et les idoles d'Égypte s'écrouleront d'un seul coup. Évidemment, d'une certaine manière, le Nil, tant vénéré par les anciens Égyptiens, qui charriait ainsi la parole de Dieu ouverte à l'endroit même où celle-ci évoquait la venue du Fils de l'homme en Égypte, ça a été ressenti par les Coptes comme une extraordinaire illustration de cette continuité.
Est-ce que l'appropriation de ce culte de la Sainte Famille est une manière de s'identifier aussi, de s'approprier ses propres racines en tant qu'Église national, alors je le mets bien entre guillemets, bien sûr, cette expression, parce que là nous sommes sur des siècles de culture et de symbiose avec le Nil, donc qui remonte peut-être jusqu'à ses sources, jusqu'à la première cataracte. Est-ce que c'est une manière de s'approprier aussi cette notion de seconde terre sainte?
Oui, certainement, parce que bien entendu l'Église d'Égypte fait remonter ses fondations à l'évangéliste Marc, mais au-delà de cela, les chrétiens d'Égypte lisent la Bible et savent qu'Abraham a été en Égypte. Il y a la merveilleuse histoire de Joseph qui fut vizir de Pharaon. Le prophète Jérémie a été en Égypte et notre Seigneur et sa famille. Et donc oui, pour les Égyptiens, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a un mystère de la prédestination de l'Égypte accueillir le Christ. Et les Égyptiens pensent volontiers que durant son séjour de plus de 3 ans en terre d'Égypte, Jésus a déjà semé quelques graines de chrétienté dans le cœur des Égyptiens pour préparer ceux-ci à accueillir pleinement la bonne nouvelle de l'Évangile.
Alors je reviens sur ce numéro du Monde de la Bible. Est-ce qu'il y a d'autres parties dans ce dossier qui est extrêmement complet dont vous voudriez nous parler? Quelles sont les descriptions contemporaines qui ont été faites sur le monde copte aujourd'hui,
d'abord, qui
a souffert, il faut rappeler qu'il y a quelques années, il y a eu des attentats terribles.
Oui, d'ailleurs, par exemple, le Deir el-Muharrak, l'endroit le plus méridional, donc à peu près du séjour de la Sainte Famille, en 1994, a été victime d'un attentat. Deux moines et plusieurs laïcs ont péri. Alors, je dois dire que je suis pas peu fier de ce numéro que j'ai coordonné avec Monsieur de Sagazan et toute l'équipe du Monde de la Bible, parce que je crois que ça donne vraiment un très bon panorama du passé, mais également du présent, en évitant peut-être les clichés un peu trop réducteurs. Par exemple, ne pas s'imaginer que l'Église copte est figée dans un passé immémorial dont seraient exempts des éléments de modernité. Ne pas non plus s'imaginer que l'histoire des chrétiens d'Égypte a été un long chemin de persécution continue, comme certains le laissent parfois entendre. L'article de Gaëtan Duroy, qui est un compatriote, qui est belge donc, est très au fait des réalités de l'Égypte contemporaine, et notamment de ce qu'a été la place des Coptes dans les événements qui ont suivi la chute de Hosni Moubarak, ou bien l'interview du frère Jean Druel, un de mes anciens étudiants lillois, mais qui est directeur de l'Institut Dominicain d'Études Orientales au Caire, je crois mettre en perspective la situation contemporaine des Coptes et l'histoire de leur dialogue, tantôt difficile, tantôt assez heureux, avec la majorité musulmane. Ils mettent cela en perspective en évitant, je dirais, les propos trop catégoriques. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de regards sur le patrimoine copte, le patrimoine artistique, avec l'article de Julien Aubert de La Pierre, toute cette histoire extraordinaire d'une iconographie copte qui est une des plus anciennes iconographies chrétiennes, l'histoire de la littérature copte, et là, c'est un professeur très réputé, italien, le professeur Orlandi, qui est un des meilleurs connaisseurs de la littérature copte, qui nous initie à celle-ci. Et alors, je voudrais aussi signaler l'article d'un grand ami, Adel Sidaro, qui est un copte émigré au Portugal où il a fait une brillante carrière universitaire et qui, lui, connaît très bien ce qu'a été l'extraordinaire foisonnement de la littérature copto-arabe, c'est-à-dire ces chrétiens qui se sont mis en Égypte à écrire, à penser, à théologiser en arabe, au cœur de l'islam égyptien, et qui ont produit au XIIIe siècle, notamment, je pense à ces encyclopédistes extraordinaires, qui sont en même temps des laïcs, les frères Ibn al-Asal, qui ont produit une littérature tout à fait méconnue, mais qui dénonce le cliché d'une Égypte où musulmans et chrétiens se seraient toujours affrontés. C'est une littérature qui, au contraire, témoigne d'une grande porosité entre musulmans et chrétiens, d'un très grand esprit de dialogue entre musulmans et chrétiens en Égypte, même s'il ne faut pas être trop irénique et faire de l'histoire des chrétiens d'Égypte un jardin tapissé de roses et de violettes. Non, il y a eu des moments difficiles, bien entendu, mais à tout prendre, il n'y a jamais eu en Égypte de guerre de religion aussi sanglante que celle que nous avons connue au XVIe siècle en Europe entre catholiques et protestants. On ne trouve rien de semblable.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la population copte actuellement? On parle de 10% du pays, mais je crois qu'il y a très peu de sources fiables.
Oui. Alors, les chrétiens d'Orient ont toujours tendance un peu à surestimer leur nombre et ça peut induire des lendemains et des réveils difficiles. 10% c'est un grand maximum. Je crois que les Coptes aujourd'hui sont entre 6 et 8% de la population égyptienne. Mais la population égyptienne a dépassé le cap des 100 millions. Ça veut donc dire que ce peuple copte est un peuple important. C'est la plus grande des communautés chrétiennes du Proche-Orient. Elle est moins touchée d'ailleurs par l'immigration que d'autres communautés chrétiennes. Tout simplement aussi parce que parmi les coptes, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux classes défavorisées, à la petite ruralité. Les chiffonniers du Caire sont coptes, n'ont pas les moyens d'émigrer. Donc il reste au pays. C'est une communauté qui évidemment vit depuis plusieurs décennies avec douleur la montée en puissance de l'islamisme politique, les violences que cet islamisme politique a générées, et qui, comme tous les Égyptiens, a été profondément marquée. Il y a eu une énorme attente, un élan enthousiaste par ce qu'on a appelé le printemps arabe, la révolution de 2011, la chute du régime Moubarak, mais la communauté chrétienne ensuite a déchanté parce que les choses n'ont pas tourné exactement comme on pouvait l'espérer. Il y a une sorte d'OPA islamiste qui a été lancée vis-à-vis de l'Égypte et qui s'est traduite finalement par la destitution de Morsi par l'armée. Une destitution que les Coptes ont appelée incontestablement de leur vœu. Ils l'ont appuyé, leur pape l'a appuyé de son autorité morale et communautaire. Mais aujourd'hui, nombre d'intellectuels et de laïcoptes regrettent aussi, et Gaëtan Duroy dans son article l'exprime bien, regrettent aussi le retour à des pratiques extrêmement coercitives, dictatoriales, policières, à une corruption assez généralisée que malheureusement le président Sissi chapeaute de son autorité. Ils auraient espéré la construction d'une Égypte plus citoyenne.
Alors je voudrais citer le frère Jean Druel dont vous parliez tout à l'heure, qui est dominicain au Caire. Les jeunes sont nombreux, dit-il, à réclamer une citoyenneté non religieuse. Des jeunes musulmans et des jeunes non musulmans, j'imagine.
Oui, mais il faut sans doute distinguer le Caire et le monde rural. Vous connaissez bien la Turquie, je crois que c'est un peu la même chose. Il y a une grande disparité entre la ruralité et la grande métropole du Caire. Alexandrie est un cas encore un peu à part. Au Caire, c'est vrai que l'on voit de plus en plus des jeunes coptes ou des jeunes musulmans qui ouvertement se distancient de la religion et des identités confessionnelles surdéterminées. On voit même aujourd'hui des discours carrément agnostiques ou athées s'épanouir à la radio, à la télévision. C'était impensable avant. Et donc cet appel à une citoyenneté moderne. Pour ce qui est de la campagne, je crois que la situation est très, très différente parce que les mentalités sont beaucoup plus archaïques et les schémas traditionnels beaucoup plus prégnants. Et d'ailleurs, le frère Druel lui-même le dit, il vit au Caire, il connaît moins bien la campagne égyptienne qui a été excellemment décrite récemment dans le livre de Catherine Mayer-Jaouin sur les Coptes catholiques. Je crois que vous l'avez présenté
dans
cette
émission.
On avait
fait deux émissions.
Donc, c'est deux mondes tout à fait différents. Et les espoirs qui avaient été nourris lors de la chute de Moubarak ont été dénoncés, ont été en quelque sorte niés par la victoire écrasante des islamistes lors des premières élections législatives, mais c'est parce que la campagne n'avait pas voté comme le Caire, évidemment.
Nous étions ce matin en compagnie de Christian Canuyer pour évoquer un numéro spécial du Monde de la Bible dédié aux Coptes, histoire des chrétiens d'Égypte. Un numéro qui est magnifiquement illustré et en vente dans tous les bons kiosques. Je voudrais remercier Dany Journeau, Olivier Dupré et Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission et vous souhaiter aussi un joyeux Noël parce que nous allons nous retrouver le 29 décembre prochain. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche